Bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour le 24e épisode de la saison 2 de Vue du Banc, un épisode spécial Ligue 1. On a vu quelques matchs étrangers ce week-end, mais là, en milieu de semaine, étant donné qu'il y avait une journée de Ligue 1, on s'est dit qu'on allait axer là-dessus, avec un intervenant habituel, Florent Tonuti. Salut Florent.
Salut.
Et un invité un petit peu particulier, Raphaël Cosmédis, ayant fait forfait pour d'obscures raisons, c'est Julien Sunsao, a.k.a. Birdace sur Twitter, qui est avec nous. Salut Julien.
Salut.
Et donc, à 3, on sera rejoint par une quatrième personne tout à l'heure. On vous en dit pas plus. Il faudra rester pour voir qui c'est. Un 10, ce n'est pas Jean-Michel Aulas. Voilà. Donc, pour l'instant, on va parler de la Ligue 1 donc, et du haut de tableau. Alors, haut de tableau, pour l'instant, c'est Monaco qui est leader. Florent, qu'est-ce que tu as pensé des dernières prestations monégasques, notamment ce match nul arraché contre Paris, qui est peut-être ce qui va faire la différence dans quelques mois dans la course au titre. C'est peut-être ces points-là qui vont leur permettre d'être champion.
Ouais, ben Monaco avait quand même un mois de janvier compliqué, puisque compliqué en tout cas sur le papier. Ils ont affronté l'OM, ils ont affronté Paris, ils ont affronté Nice dernièrement, et ils s'en sont sortis en faisant le plein, en prenant la tête du championnat en plus, et en prenant 3 points d'avance sur leur poursuivant. Donc pour eux c'est parfait sur le plan des résultats, il y a pas grand chose à redire. Sur le plan du jeu, je vais peut-être un peu prendre le contre-pied, mais ils m'avaient un peu déçu au Parc. Ils avaient été très impressionnants sur le pressing, etc. Mais au niveau de la créativité, ça passait énormément par les côtés. Mais au final, le PSG n'avait que très peu été inquiété en défense. Ils avaient bien quadrillé leur surface et ça leur avait suffi pour renvoyer les nombreux centres de Benjamin Mendy ou Djibril Sidibé. Finalement, ils prennent le but à la dernière seconde avec Bernardo Silva, peut-être d'ailleurs parce qu'ils pensent avant tout à garnir leur surface sur cette action au lieu de sortir sur un joueur qui finalement tire au but. Et voilà, ils ont fait le plein, ils vont se retrouver en position idéale parce que en plus sur le plan du calendrier de la Ligue des Champions, Paris entre en Ligue des Champions la semaine prochaine. On en parlera plus tard, alors que Monaco va rentrer la semaine suivante. Et en plus, Paris a des matchs compliqués à jouer avec un déplacement à Bordeaux, la réception de Toulouse, quand Monaco affronte Metz et je sais plus qui, le deuxième match, et va à Bastia. Donc c'est vrai que Monaco a une vraie opportunité sur cette séquence-là d'une semaine de vraiment faire le plein, et tout en espérant en plus un faux pas du PSG qui peut-être possible à un moment donné. Donc, mois de janvier parfait, et puis voilà, hein, ils sont encore en course dans toutes les coupes, et il n'y a pas grand-chose à redire sur leur parcours.
Julien, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'était un petit peu difficile contre Montpellier, ils ont eu en plus l'expulsion de Jemerson, une paire de blessures. Est-ce que c'est un bon week-end pour Monaco de s'en être plutôt bien sorti, une bonne semaine? Ou alors est-ce que, mine de rien, c'est un petit peu inquiétant de voir que le niveau de jeu ou l'efficacité est un petit peu en baisse par rapport au mois précédent?
Ouais, c'était un match typique de certains matchs de Monaco où même en faisant des performances un peu moins bonnes, ils arrivent toujours à gagner. Bon, là, encore une fois, ils se sont facilité le match au bout de 20 minutes, ils menaient déjà 2-0. Donc après, est-ce que c'est pour ça qu'ils ont levé le pied? Je sais pas, mais c'est vrai que ça a été assez compliqué. Contrairement au match contre Nice où je les ai trouvés très très bons, justement, ils avaient vraiment étouffé Nice avec un pressing impressionnant, beaucoup de joueurs concentrés au milieu du terrain contre Montpellier. Bon, c'est notamment sur les coups de pied arrêtés qu'ils ont eu du mal, donc pas forcément que dans le jeu, mais deux visages quand même assez différents.
Il y a quelque chose sur Monaco, un petit bémol par rapport au tableau presque idyllique que j'ai fait tout à l'heure. C'est que je pense que, vu la manière dont ils défendent, on a vu leur pressing qui était très bon contre Nice, mais qui a aussi eu ses failles, et c'est plus Nice qui n'a pas su profiter des 4-5 phases de jeu où le pressing monégasque a été déjoué et Nice n'a pas réussi à enchaîner. Et même quand Monaco doit défendre bas, c'est une équipe où tu peux quand même exposer leur défense assez facilement. Je pense que Julien confirmera qu'au niveau des XG, ils sont très loin défensivement d'une équipe comme Paris ou des meilleures équipes du championnat. Ils doivent être dans le top 5, j'imagine, mais peut-être pas forcément dans le top 3, je ne sais pas ça exactement. Mais,
ils sont deuxième.
Ils sont deuxième, ils sont passés devant Toulouse alors, depuis.
Mais, Toulouse qui a eu un peu plus de difficultés dernièrement, et ils sont repassés devant, donc assez loin de Paris, hein, mais ils sont autour d'un but par match, on va dire, à peu près au niveau de Angers, même si bon, après, dans les résultats.
Ouais, mais voilà, je pense que aujourd'hui, Monaco a réussi à garder sa réussite, etc. Contre Nice, ils marquent vraiment sur leur première très grosse occasion. Même si Bernardo Silva force Cardinal à faire un arrêt en première mi-temps. Mais je pense que, tu vois, l'année dernière, Christophe, le Barça avait traversé je crois que c'était au mois d'avril, où ça avait été horrible sur le plan de l'efficacité et de la réussite. Ils étaient à 20% de réussite devant le but sur depuis le début de la saison, et ils ont fait un mois où ils sont tombés à 6%. Et je crois que c'est ce mois-là où ils perdent la Ligue des Champions, et heureusement qu'ils avaient beaucoup d'avance sur le Real, parce que sinon le Real serait revenu à hauteur et il y aurait eu un sprint difficile. Et je pense que sur Monaco, sur leur réussite actuelle, offensivement, je pense que leur défense ne serait pas capable de supporter peut-être un coup de moins bien des attaquants et de l'équipe devant. Donc à voir si ça leur arrive cette saison. C'est sûr que s'ils continuent à marquer 2-3 buts par match, à marquer sur leurs premières occasions et à contrôler les matchs de cette façon, il va pas leur arriver grand chose jusqu'à la fin de la saison. Mais tu sais que ces équipes là qui sont on va pas dire en sur-régime, oui, parce que normalement ça doit pas durer aussi longtemps, elles peuvent traverser un moment un temps faible dans la saison, et c'est sur ce temps faible là que t'as d'autres qualités qui doivent te permettre de tenir. Est-ce que la défense de Monaco est assez solide pour supporter une petite faiblesse de l'attaque? À voir. Moi, je me rappelle par exemple du match contre Lyon où ils perdent 3-1 à domicile. Ça avait un peu surpris tout le monde, mais sur ce match-là justement, Monaco démarre le match très fort. Monaco rate 2-3 occasions de prendre l'avantage. Et finalement, c'est l'OL qui marque en premier, je crois peut-être sur sa première vraie occasion. Et finalement, c'est l'OL qui s'impose avec Mendy qui pète un plomb aussi et leur facilite la tâche. Donc voilà, à voir si il n'y a pas des Monaco OL bis qui vont jalonner leur fin de saison, peut-être un ou deux accidents, et à voir aussi si le PSG serait capable d'en profiter ou pas.
Il y a aussi une variable dont t'as pas forcément parlé. Enfin, au-delà de la fragilité potentielle qui existe en défense, c'est que si on prend le quatuor axial défensif, donc Jemerson, Milik, Fabinho, Bakayoko, c'est 4 des 6 joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu, sachant que le 5e c'est le gardien Subasic, et le 6e c'est Sidibé. Bon, Sidibé, ils peuvent remplacer sur les latéraux avec à la fois Georges et Almami Touré, c'est pas mal. Le problème, c'est que si on regarde la rotation, je sais pas ce que t'en penses, Julien, mais après on retombe vite selon les postes sur du Endoram, sur du Raji, des joueurs qui n'ont pas forcément prouvé au très haut niveau, ou alors qui sont pas forcément super bien cette saison. Moutinho au milieu, c'est la première rotation et c'est pas le même profil, et c'est pas forcément aussi bon, en tout cas aussi utile dans cette équipe-là que Bakayoko Fabinho. Donc il peut y avoir aussi un risque, là par exemple avec la suspension de Jemerson, avec Raji, tu peux avoir un risque d'être un petit peu moins solide si tes quelques patrons qui sont toujours là viennent à manquer.
Oui, c'est sûr. On a vu en attaque, en tout cas, dès qu'ils avaient besoin de remplacer un joueur, ceux qui le remplaçaient tout de suite étaient au niveau, mais ça ne sera pas forcément le cas dans les autres zones du terrain, notamment au milieu où justement le match contre Lyon était assez symptomatique. Je pense que les équipes qui vont faire du mal à Monaco cette saison, et Nice l'avait fait quelques fois là, dans ce match, mais justement ils avaient, comme dit Florent, ils ne se sont pas bien servis après, c'est quand ils arrivaient à trouver des joueurs dans le dos du milieu de Monaco. Après, au niveau de l'utilisation des joueurs, ça rappelle quand même des équipes comme Leicester ou Chelsea dernièrement, qui ont été champions justement en gardant un peu la même équipe toute l'année et qui, en ayant pendant une saison entière pratiquement aucune blessure, on a l'impression que pour être champion dans des championnats comme ça, où on a une équipe peut-être un peu plus faible, ça fait partie des éléments qui, quand ils tournent en ta faveur, peuvent te permettre de gagner sur le fil de la saison.
Florent, pour finir sur Monaco, une petite question posée sur Twitter par Nadine Zamorano, fidèle auditeur, qui nous demande pourquoi personne ou presque ne vient jouer avec un bloc bas contre Monaco, comme Lille l'a fait contre l'OL ou contre Paris, comme aussi Nancy a tenté de le faire visiblement contre Lyon avec moins de réussite. Mais pourquoi est-ce qu'il peut y avoir ce complexe d'infériorité qui pousse les adversaires de Paris à jouer uniquement le bétonnage, alors que contre Monaco, ce n'est pas forcément le cas, alors que la puissance offensive de Monaco est au moins équivalente à celle du PSG?
C'est un point assez intéressant. Après, Monaco, c'est aussi une équipe qui sanctionne tes erreurs ou tes errements. Moi, je me rappelle du match de Bordeaux que j'ai vu au stade et que Monaco a plié en 5 minutes de jeu à peu près sur 2 balles perdues par les Bordelais parce qu'ils construisaient. Donc, il y a aussi ce facteur-là, c'est que Monaco est une équipe qui peut te punir en partant de ses 40 mètres, de ses 30 mètres, et alors que tu es en train d'attaquer, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a... Il n'y a pas une équipe aujourd'hui qui a attendu Monaco très bas, en tout cas dernièrement. Et pour moi, l'exemple du PSG, je vais revenir dessus parce qu'on a beaucoup parlé de ce match et de la prudence d'Emery. Mais en même temps, on regarde l'équipe qu'il affrontait en face. C'était une des meilleures, la meilleure attaque d'Europe en ce moment. C'est les chiffres qui le disent. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Son équipe s'est surtout focalisée sur la couverture de la surface de réparation. C'est-à-dire que Mota jouait quand même très bas. Les ailiers jouaient très bas pour éviter aux latéraux de se retrouver tout seuls ou à 2 contre 1 contre les pairs Lemar Mendy ou bien Sidy B Bernardo Silva, même si les deux milieux repiquent beaucoup dans l'axe. Mais il y a eu vraiment l'accent qui a été mis par Emery sur la couverture de la surface et la protection face aux nombreux centres qu'envoie Monaco. Il suffit de voir le match contre Nice, les 3 buts, ça vient de 3 centres de la gauche. Je ne sais pas ce qui s'est passé contre Montpellier après, je n'ai pas vu. Mais voilà, pour vraiment bloquer Monaco, il faut déjà avoir une réponse à ça. Et c'est vrai qu'un bloc très bas peut permettre, entre guillemets, de quadriller efficacement une surface de réparation. Normalement, ça doit aider. Après, la question, c'est est-ce que le FC Metz, Bastia, Guingamp, qui sont les prochains adversaires de Monaco, sont capables de faire ça 90 minutes durant, parce que c'est éprouvant. Il ne faut pas faire une seule faute de jouer bas. Il ne faut pas faire une seule faute face à des adversaires en plus qui peuvent tirer de loin. Lemar sait le faire. Bernardo Silva sait le faire. Ils l'ont montré dernièrement. Donc voilà, la difficulté, elle est aussi là. C'est que jouer bas, c'est aussi éprouvant, parce qu'en plus, si tu fais une erreur quand tu joues bas, l'erreur, elle a beaucoup plus de chances de payer que quand tu fais l'erreur à 60 mètres de tes buts. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui explique le pressing haut de Monaco, son efficacité contre Nice ou le PSG. Ils ont pressé haut, ils ont fait quelques erreurs en jouant haut, les milieux se sont fait éliminer, mais les adversaires ont été incapables de le punir, ça. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant dans le jeu de Monaco. Mais pour revenir au bloc bas, je pense que c'est ça la limite. Est-ce qu'il y a une équipe aujourd'hui de Ligue 1 qui est capable d'avoir la rigueur pour tenir pendant 90 minutes face à l'armada entre guillemets de Monaco? À part le PSG, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup d'autres. Lyon avait su aussi plutôt bien défendre sur la demi-heure qu'ils avaient fait en 11 contre 11. Après, en 11 contre 10, c'était un peu plus facile pour eux. Mais voilà, Lyon a quand même montré, malgré tout ce qu'on peut dire sur Genesio, notamment en Ligue des Champions, que quand il s'agissait d'affronter une équipe réputée plus forte, Lyon était capable de se mettre au niveau au moins défensif et de limiter, de réduire les espaces, de limiter les dégâts, quoi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres équipes en Ligue 1 qui sont capables de le faire? J'en suis pas forcément certain.
Et puis, il y a un autre point sur Monaco, c'est aussi l'équipe qui marque le plus sur coup de pied arrêté,
ouais,
en Ligue 1. Donc, déjà, quand on défend bas, on fait des fautes, on peut faire des fautes basses. Avec un joueur comme Lemar, on a Glick qui a déjà marqué 4 ou 5 buts. Ils ont cette arme aussi qui fait que c'est pas si facile que ça de défendre contre eux.
C'est un peu comme on dit au basket, le pick your poison, tu sais. Peu importe où tu joues, ils vont toujours avoir au moins une solution pour t'emmerder et créer le danger, quoi.
L'un des poisons de Nice, alors on va passer sur Paris, on y reviendra un petit peu plus tard en détail. Donc l'un des poisons de Nice, c'est Willian Cyprien qui a marqué ce soir, puisqu'on enregistre là, il est 21h37, le match de Nice s'est terminé il y a peu de temps, victoire 1-0 contre Saint-Etienne, but de Cyprien. Ça fait partie des joueurs qui marquent, je pense, les buts avec le plus faible taux d'expected goals, puisqu'il marque assez souvent hors de la surface. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe niçoise qui s'accroche, même si c'est un petit peu moins flamboyant? Là, ils ont traversé une petite passe difficile. Bon, ils avaient quelques absences, mais malgré tout, ils ont autant de points que Paris et ils restent malgré tout aussi dans la course au titre. Julien, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, bah Nice, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'ils ont le même nombre de points que Paris, mais on n'a pas forcément le même ressenti. Bon, déjà, c'est parce que c'est lié à l'état de forme qui est quand même. Ils ont eu pas mal de matchs nuls. On sent que, justement, comme tu disais, la moindre absence, vu l'effectif niçois, fait tout de suite une grosse différence. Ils n'ont pas forcément les moyens de compenser quand on a des joueurs offensifs, des Belanda, des Balotelli qui sont absents quelques matchs. Donc, oui, bon, là, je pense qu'ils vont être assez tranquilles pour garder leur troisième place, mais de là à les voir se mêler à la course au titre, on a du mal à, j'ai du mal à imaginer.
Est-ce que c'est simplement l'effectif qui est trop limité? Est-ce qu'ils ont un petit peu baissé en qualité de jeu? Est-ce qu'ils se refaient sur une forme de chance qui les a un petit peu abandonnés, même si bien sûr ils continuent? Genre là, ils ont gagné ce soir, donc ils continuent à gagner des matchs. Quel bilan tu fais de leur force actuellement?
Oui, bah Nice, oui, ils ont surfé et effectivement, notamment, enfin, un peu des deux côtés, mais défensivement, là, on voit que, par exemple, un joueur comme Malang Sarr a un peu plus de difficultés dans le système. Là, bon, ils ont un peu bougé, ils se sont adaptés. Là, ils ont récupéré des joueurs, et puis je pense qu'ils vont quand même continuer à gagner. Ils ont l'entraîneur qu'il faut pour s'adapter justement au nouveau challenge. Qu'ils vont avoir. Il a toujours dit que de toute façon, il pensait que Nice avait eu de la chance et qu'il fallait pas juste faire pareil pour continuer à gagner. Après, pour le titre, c'est compliqué parce que quoi qu'il arrive, des équipes comme Paris, Monaco, là, on les sent partis pour gagner contre à peu près n'importe quelle équipe. Ils peuvent très bien gagner contre. N'importe quelle autre équipe de Ligue 1, Nice, on sent qu'ils peuvent plus tomber sur quelqu'un qui va les embêter un petit peu défensivement et finir avec, bah justement, c'est ce qui s'est passé, enchaîner un petit peu des matchs nuls. Dès que les joueurs offensifs trouvent pas forcément de solutions individuelles en plus des solutions collectives.
Florent, est-ce que aussi cette équipe, elle n'a pas atteint finalement une forme de pic? Est-ce que son jeu peut encore s'améliorer? Comment est-ce que tu joues ça, sachant qu'en plus, il y a un joueur comme Pléa qui est un petit peu moins en réussite actuellement, qui était peut-être en sur-régime sur le début de saison par rapport à sa progression naturelle, qui ferait qu'il serait capable de faire des choses comme ça, mais peut-être pas sur toute la durée d'une saison. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe niçoise qui, sans trop s'avancer, a un bon profil de troisième?
Ouais, bah de toute façon, quand on avait fait notre spécial sur Nice, on avait un petit peu évoqué cette situation, c'est-à-dire que ce serait très dur de tenir dans la course au titre jusqu'au bout, mais que Nice ferait sans doute un très bon troisième. Aujourd'hui, je pense que l'équipe a en effet perdu peut-être le petit plus qui lui permettait, tu sais, l'année dernière. C'est théoriquement, techniquement, c'est l'année dernière, mais sur la phase aller, je veux dire les matchs, tu sais, qu'elle gagnait mais sans forcément contrôler jusqu'au bout, où t'avais un arrêt de cardinal au bon moment qui permettait à l'adversaire qui permettait à Nice de rester à 0-0, soit de garder l'avantage. J'ai l'impression que ça a un petit peu basculé dans l'autre sens sur ce mois de janvier en tout cas. C'est-à-dire que tu te retrouves sur une équipe de Nice qui n'a plus forcément ce petit plus qui lui permettait de gagner, notamment en fin de match, d'arracher des matchs c'est face à Lorient, je crois, où ils gagnent 2-1 à la maison sur un tir de Balotelli en fin de partie, ou contre Dijon aussi, où Balotelli va débloquer la situation en mettant un but alors qu'il est en position de hors-jeu. Mais ça permet à Nice de prendre les 3 points au lieu de faire un nul à domicile qui aurait été contre Dijon une contre-performance. Bon, et voilà, sur ce début de saison contre Metz et sur ce début d'année décidément contre Metz et contre Bastia, ils n'ont pas eu ce petit plus, et même si je crois ils ont eu des occasions évidemment pour gagner ces matchs, ben voilà, la pièce est un petit peu tombée de l'autre côté. Après, bon, il y a la défaite contre Monaco où il n'y a pas grand chose à redire. Ils sont tombés sur plus fort qu'eux, même s'ils ont réussi à déjouer le pressing, ils n'ont pas eu la qualité nécessaire pour mener les actions jusqu'au bout. Et défensivement, voilà, Julien parlait de Malang Sarr, il fait une erreur de marquage, ça permet à Monaco de débloquer la situation. Et sur le but qui suit, t'as encore une couverture justement de la surface qui est pas bonne et Monaco met le deuxième. Après, c'est terminé. Et Nice, c'est un petit peu l'équipe qui n'a, par rapport évidemment à Paris et Monaco, n'a pas de marge. Quand hier, Paris fait un mauvais match contre Lille, mais finit par gagner presque miraculeusement, je pense que ce genre de match-là, Nice les gagne aussi sur la première moitié de saison. Je suis pas sûr qu'ils aient ce petit plus pour les gagner sur cette phase retour. Et c'est là que l'écart va peut-être finir par se faire avec les deux équipes de tête.
Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Balotelli est déjà à 9 buts. Mais si on prend dans le détail, dans l'eau, il y a deux pénalties. Enfin, par exemple, Crivelli a déjà marqué 7 buts. Lucas Moura en a déjà marqué 8. Donc là-dessus, il est sur des bases honnêtes, mais pas incroyables non plus. Et il marque un but anecdotique contre Guingamp pour faire 3-1 en fin de match. Mais sinon, ça fait quand même un moment qu'il a pas marqué. Il a marqué un but, le but de la victoire contre Dijon. Ensuite, sinon, ses buts, c'est septembre-octobre. Je sais pas ce que t'en penses, Julien, mais c'est aussi l'un des joueurs qui pourrait permettre à une équipe qui tourne bien de devenir très forte et qui, quand ça tourne un peu moins bien, pourrait faire la différence. Et là, ils ont ajouté Obadi qui va permettre, je pense, d'ajouter de la qualité au milieu, mais il faut qu'ils aient un finisseur et Player est un peu moins bien. Si Balotelli n'est pas non plus là pour faire la différence, tu es encore plus dépendant des frappes lointaines de Cyprien, des coups de tête de Dante ou autre.
Oui, bah, il a aussi été quand même pas mal absent, donc il faut mettre ça en contexte. Hein. Il a 2 buts de moins que Player, mais en peut-être joué la moitié du temps. Mais c'est sûr, par contre, ça fait partie des profils qui manquent peut-être à cet effectif. Hein. Bon, Obadi, par exemple, voilà, il va apporter, il a un sens du collectif qui va parfaitement s'intégrer à cette équipe. Hein, mais il en manque peut-être des individualités pour faire la différence, justement, quand le jeu collectif ne suffit pas à faire gagner, quand il y a un petit peu de moins, qu'il y a un peu de... Voilà, pour mettre un peu d'huile dans les rouages. Quand on fait un mauvaise performance, il y a des équipes comme Lyon, Paris ou Monaco qui vont avoir ce but venu de nulle part ou d'un coup ce geste de génie. Et à Nice, un joueur comme Pléa qui est très bon, par exemple, même lui n'est pas vraiment dans ce domaine-là. Effectivement, il y a Cyprien qui le fait depuis le début de saison, mais il est un petit peu tout seul.
Il y a Younes Belhanda quand même. Il faut parler de lui parce que sur le mois de janvier, il n'est pas là. Il est blessé, je sais plus quel était son problème, mais bref, il était pas là. Et ça s'est vraiment ressenti. Et contre Monaco, moi, c'est ce qui m'a frappé. Certes, il entre en jeu. Il y a déjà 2-0 pour Monaco, donc il y a peut-être un relâchement côté monégasque. Mais justement, sur cette période-là, cette dernière demi-heure, sans forcément parler de la perf de Monaco, mais dans le jeu, ce qu'il a apporté à Nice, c'était exactement ce qui manquait à Nice pendant l'heure précédente. C'est-à-dire un joueur qui était capable, quand Nice parvenait à déjouer le pressing de Monaco, à mettre le jeu dans le bon sens et à vraiment à y aller, prendre à la gorge la défense de Monaco qui était exposée. C'est-à-dire, à partir du moment où la défense est exposée, je vais tenter quelque chose qui va la mettre en difficulté, qui va chercher à la piquer et à la tuer, tout simplement. Et ce que ne faisait pas jusqu'ici Essérik ou Pléa, qui était un peu trop dans le jeu latéral, etc. Dès que Belhanda est rentré, déjà, il y a eu deux conséquences. Une fois que Nice déjouait le pressing adverse, tu avais Belhanda qui, justement, était là pour faire cette passe. Et de l'autre côté, tu avais un joueur comme Pléa qui jouait plus haut et qui, du coup, pouvait retrouver son registre habituel, qui, au lieu d'être le passeur sur ces séquences-là, eh bien, il était l'attaquant et il offrait des appels en profondeur, chose que ne fait pas non plus Balotelli, ou en tout cas, pas régulièrement et pas constamment pendant 90 minutes. Donc Belhanda à suivre, j'ai l'impression qu'il a fait une bonne reprise là contre Saint-Etienne, puisque je crois qu'il a débuté le match, à voir dans les prochaines semaines, mais c'est un joueur aussi qui peut remettre Nice dans le bon sens et les relancer et peut-être leur faire retrouver leur dynamique de la première moitié de saison, même si là j'ai plus de doutes, mais c'est un joueur qui doit pouvoir les porter et leur faire vivre une fin de saison tranquille à défaut d'être triomphante parce que les deux de devant risquent de pas trop ralentir.
Fin de saison qui pourrait être tranquille aussi, c'est pour Lyon, Julien. Toi, le Lyonnais, qu'est-ce que t'en penses de cette équipe-là? Est-ce que déjà la quatrième place, elle est verrouillée, ou alors est-ce que tu as peur que ça revienne derrière? Et quel bilan on peut déjà tirer de cette saison? Parce que mine de rien, si Lyon gagne encore 2-3 matchs, on se dirige effectivement vers une quatrième place qui pourrait être verrouillée. Et avec cet effectif, ça serait, je pense, une déception. Là, l'ambiance est pas top top autour du club. Il y a eu pas mal de protestations des supporters. Qu'est-ce qui se passe à Lyon? Et est-ce que c'est la faute du coach, la faute des joueurs? Est-ce que Lyon est vraiment dans une mauvaise passe en ce moment? Qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Bah déjà, oui, je pense que la quatrième place semble toute trouvée. Derrière, je sais pas, on verra comment Marseille évolue au fur et à mesure, mais Lyon a quand même pas mal d'avance. Là, ils ont 4 points d'avance avec un match en retard à jouer. Donc on verra aussi le résultat de ce match en retard. Mais ouais, bah, un petit peu de gâchis parce qu'on sent que c'était un petit peu la dernière année avec un groupe complet. Là, on sait déjà qu'il va y avoir un départ de Lacazette qui va être assez compliqué à gérer. On va voir ce que la cellule de recrutement fait, mais bon.
Oh, t'as Mateta, t'as Mateta.
Oui, c'est vrai. Ou Cornet. Bon. Mais bon, de toute façon, ouais, ça c'est le type de joueur un peu compliqué à remplacer pour n'importe quelle équipe. Hein, surtout, on va voir ça aussi, quelle somme ils ont envie de mettre. Mais bon, voilà, on sentait que c'était un petit peu la saison où il y avait tous les joueurs qui sont à l'âge de leur meilleur niveau, hein. Lacazette, même après bon Gonalon, Tolisso avant de partir aussi. Donc c'était peut-être l'année ou jamais de faire quelque chose. Peut-être aussi avec Paris qui changeait de coach. Voilà, tout le monde, on se prenait à rêver d'aller chercher en haut. Je pense que il y a eu en début de saison quand même des matchs qui étaient où Lyon a eu des bonnes prestations, mais pas forcément été récompensé. Et après ces matchs-là, dans la tête de Genesio, ça a un petit peu bugué. Il a voulu absolument tout changer. Alors qu'il y avait eu une deuxième partie de saison l'année dernière en 4-3-3 qui fonctionnait bien. Depuis que ça a un petit peu essayé de changer, on est passé à 3 derrière. Là, on a notre 4-2-3-1 déséquilibré qui marche peut marcher contre la plupart des équipes de Ligue 1, parce que devant il y a des joueurs talentueux qui peuvent très vite combiner et marquer pas mal de buts, mais c'est compliqué de voir en tout cas une préparation de l'année prochaine sur cette fin de saison. Donc on verra si les derniers matchs voilà, nous permettent de garder la quatrième place, mais en tout cas on a du mal à voir comment ça pourrait permettre de préparer une saison prochaine plus réussie, en tout cas au niveau du style de jeu.
Toi qui es très chiffre, je rappelle, je ne l'avais pas dit en intro, mais que tu t'occupes du site côté-stats.fr. Sur cette saison, est-ce que Lyon manque de chance, sous-performe, sur-performe? Est-ce que les difficultés, c'est dans la conclusion, dans le fait de se créer des occasions? Est-ce que Lyon est à sa place? Qu'est-ce que les chiffres nous disent sur cette saison?
Bah, déjà, en fait, on va dire que l'équipe qui est le plus en réussite en Ligue 1, donc c'est Nice. Et c'est un petit peu Nice qui a piqué la place de Lyon, entre guillemets. Donc, Lyon, ils ont pas montré qu'ils avaient les moyens de viser plus haut, mais ils auraient pu attraper cette troisième place en ayant de leur côté un peu plus de réussite, peut-être Nice un peu moins. Donc, ils vont payer cet enchaînement entre Nice et eux pour perdre justement cette place en Ligue des Champions qui est quand même faire une différence énorme pour une équipe. Après, oui, c'est pas un peu comme la saison dernière. Offensivement, il y a quand même un regroupement d'individualité qui est très sympa. Et quand ça enchaîne, qui joue un peu tous les prêts les uns des autres, c'est capable de très bonnes choses. Mais derrière, on a toujours des insuffisances. Ça fait quand même un bon petit paquet de saisons que ça dure et que, en tout cas, ils n'ont pas trouvé les solutions collectives pour rattraper les erreurs individuelles de joueurs comme Yanga Mbiwa ou autres en charnière centrale. Parce que bon, c'est facile de pointer du doigt, mais c'est souvent aussi exposé à cause de notamment Lyon qui veut jouer haut mais qui est incapable de le faire. On l'a vu au Trophée des Champions, par exemple, c'était un bon départ de la saison, Genesio qui s'est senti pousser des ailes, mais Lyon s'en sort généralement mieux quand il défend assez bas, mais il essaie de défendre haut, mais sans vraiment le savoir le faire, sans savoir la protection qu'il faut des milieux de terrain, et ça marche pas très bien, donc voilà, à voir si s'il va y avoir une évolution de ce côté-là, mais c'est souvent la défense qui pêche un petit peu du côté de Lyon depuis maintenant un petit moment.
Florent, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Par exemple, le fait de recruter Depay alors que tu as une défense avec Yangam, Biwa, Morel, Jallet ce soir. Est-ce que c'est là qu'il y avait la priorité était vraiment? Et qu'est-ce que tu penses globalement de cette saison lyonnaise? Est-ce que tu les as vus récemment pour un petit peu changer et mettre à jour ton point de vue par rapport à ce que tu disais il y a quelques semaines?
Ouais, bah, je les ai vus contre Saint-Etienne, où ils se sont fait rentrer dedans. Ils ont été incapables de répondre, sauf dans les dernières minutes où ça a totalement vrillé. Lyon, de toute façon, c'est une équipe qui marche simplement cette année sur le talent. Autant l'année dernière, quand Genesio a pris l'équipe, il a d'abord, en changeant le système, en passant en 4-3-3, qui se modulait quasiment en 4-5-1 quand l'équipe défendait, il a surtout remis les joueurs au boulot, quoi. Ces deux ailiers qui, dans le losange de Fournier, ne travaillaient plus, et du coup l'équipe défendait à 7, mais ils ont recommencé à défendre, et du coup l'équipe défendait à 9, voire même à 10, vu que la casette en pointe, c'est quelqu'un qui rechigne pas à faire les efforts. Là, cette année, t'as pas cette notion de collectif, comme a dit Julien. Tu sens que ça a vrillé à un moment donné dans la tête de Genesio, dans le sens où Lyon, les dernières saisons, quand ça a réussi, c'était un système qui était arrêté. Et c'était justement cette continuité-là, le losange avec Garde, puis avec Fournier, le 4-3-3, donc 4-5-1 que je disais avec Genesio. C'était ce cadre-là qui permettait aussi à l'équipe d'avoir une continuité dans les performances et après les joueurs brillaient dans ce cadre-là. Là, cette année, le cadre il a quand même changé très souvent et le choix final qui a l'air d'être celui sur lequel Genesio va s'appuyer jusqu'à la fin de la saison, le 4-2-3-1, est loin d'être sans défaut, on va dire. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'assez déséquilibré sur le papier et avec en plus des joueurs de couloir, je veux dire 4-2-3-1, si tu te retrouves avec Fekir sur un côté, même dans un 4-3-3 d'ailleurs, c'est pas une solution qui fonctionne parce qu'il ne défend pas quasiment. Je parle de lui, mais ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, hein. C'est pas forcément une fixette, mais voilà, il y a des points faibles assez clairs dans chacun des systèmes utilisés en fait par l'OL. Au-delà en plus du fait que il y a quand même un gros souci sur le plan mental des joueurs une fois que le match ne tourne pas dans le bon sens. C'est quand même une équipe qui où elle gagne ou elle perd cette saison. Il y a quasiment pas de juste milieu, ils n'ont fait qu'un match nul sur l'ensemble de la saison, ce qui est quand même assez rare. Alors c'est bien parce que oui, ils gagnent beaucoup de matchs, mais c'est vrai que si tu prends le match contre Lille où ils s'inclinent 2-1, bon, et voilà, Lille, il n'y a pas eu de miracle, hein. Ils sont venus, ils ont bien défendu, ils ont été réalistes, bon, ils ont gagné au Parc OL, tranquillement, sans trembler, hein, quasiment, même s'il y a l'énorme raté de Valbuena, là, qui l'envoie au-dessus ou sur la barre, je ne sais plus. Mais voilà, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, tout au long de la saison, elle a perdu l'identité qu'elle s'était construite l'année dernière, en fait. Et ce qui fait que, comme le disait Julien, c'est vrai qu'à l'issue de la saison, et pour construire en vue de l'année prochaine, sachant qu'en plus, tu vas certainement perdre la casette qui va enfin partir et montrer ses talents ailleurs. Désolé, Jean Concha. Et afficher ses talents ailleurs. Quand tu vois en plus son importance dans le jeu, il va y avoir un énorme chantier pour l'OL devant l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est pas Valbuena, c'est pas Depay, c'est pas Fekir ou c'est pas Ghezal qui vont réussir à le faire oublier. En tout cas, le Fekir de cette saison, s'il parvient à retrouver son niveau des saisons précédentes, ça sera peut-être autre chose. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun joueur aujourd'hui dans l'effectif lyonnais qui arrive ne serait-ce qu'à la cheville de la casette sur le plan du talent et de ce qu'ils apportent sur le terrain cette saison. Et ça va être un gros, gros chantier parce que quand tu vois les attaques de l'OL, les attaques construites, ça passe quasiment toujours par la casette. Il n'y a rien d'autre offensivement, et ça, il va falloir le bosser, et ça va être un énorme chantier. Voilà.
Alors, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le top 4.
Maintenant, on est pas mal, ouais.
Sur la bataille pour la 5e place, trois équipes qui se dégagent a priori, même s'il n'y a pas un énorme écart. Saint-Étienne, Bordeaux, Marseille, c'est en tout cas au-delà du classement, celle qui en plus semble le mieux équipée. Vas-y Julien, dis-moi de qui tu veux parler, Saint-Étienne, Bordeaux, Marseille ou d'autres choses. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette bataille pour la cinquième place déjà? Est-ce que ça t'intéresse la Ligue 1, au-delà du top 4? Est-ce que tu trouves qu'il y a de la qualité là-dedans?
En tout cas, déjà, on peut pas dire, je sais pas si l'Europa League intéresse les clubs de Ligue 1 déjà, mais bon. Non, bah, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment Marseille va évoluer. Déjà, je pense que c'est l'équipe qu'on va suivre avec le plus d'intérêt. Bon, Saint-Etienne, ils vont être dans leurs habitudes, ils vont finir voilà, à ce niveau-là, et puis l'année prochaine, ils feront pareil. On va voir si, surtout au niveau de voilà, Marseille, est-ce qu'ils donnent des indications de ce qui pourrait être le Marseille de l'année prochaine, le Champions Project. Avec voilà, l'intégration des joueurs comme Sanson, Payet, avec une demi-saison en fait, le choix de recruter déjà et de mettre quand même pas mal d'argent sur certains joueurs à la mi-saison, ça va leur permettre de commencer dès cette année à préparer en fait, l'année prochaine. Bordeaux, ils sont peut-être un petit peu dans la même logique, à voir si ils arrivent à préparer la saison prochaine dès maintenant. On sait que Gourvennec est un petit peu en train de changer son système par rapport au début de saison, mais ça, Florent pourra nous en dire plus.
Ouais.
Et vas-y Florent, je sens que t'auras envie de parler de Bordeaux.
Non, mais Bordeaux, on avait un peu abordé le cas de leur mercato avec la semaine dernière, avec les arrivées de Sankaré et de Jovanovic. Depuis, les deux ont joué leur premier match face à Caen. Ça s'est plutôt bien passé, hein, pour faire un euphémisme. C'est intéressant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que à Bordeaux, il y a une équipe aujourd'hui avec le système. Tu vois, avec le 4-4-2, en début de saison, Bordeaux avait vraiment un gros problème. C'était pour construire d'en bas, quoi. C'est-à-dire en repartant du gardien, de la défense. Et en plus, t'avais un milieu qui était pas capable de soutenir un jeu plus direct, plus long, parce que Plasil tout la lance, c'est pas fait pour faire des allers-retours et jouer des transitions, quoi. C'est plus fait pour ça, en tout cas. Là, aujourd'hui, avec le changement de système et l'arrivée notamment d'un joueur comme Sankaré, t'as une équipe qui peut soutenir un peu plus le jeu direct et qui court beaucoup plus sur le terrain et qui est aussi, c'est beaucoup plus dur face à Bordeaux de progresser désormais. Caen a eu beaucoup de mal, même sur les précédents matchs, si on accepte évidemment le PSG et sa qualité qui a forcément fait mal, notamment sur attaque placée parce que y avait Verratti en face et c'était assez compliqué. Mais tu as une équipe qui, je pense, peut vraiment poser des problèmes avec son bloc médian, tu sais, bien posé là au milieu, et dire à l'adversaire, ok, vas-y, essaie de trouver une solution pour progresser et avancer vers mon but. Et je pense que l'équipe telle qu'elle est bâtie aujourd'hui, les automatismes qui sont en place font de Bordeaux un bloc difficile à faire reculer. Et ce qui fait que, à partir du moment où tu as du mal, où tu ne recules pas sur le terrain, tu vas récupérer la balle un peu plus haut que ce que tu faisais jusqu'ici en 4-4-2. Et si tu récupères la balle plus haut, tu as moins de distance entre ta défense et tes milieux, et du coup, tu peux plus facilement enchaîner. Et à partir du moment où tu n'as pas à repartir de tes défenseurs, et notamment à repartir de Nicolas Palois, tu n'as pas forcément de problème de relance, parce que si c'est ton milieu de terrain qui fait la première touche de balle, avec Toulalan, Plasil ou Sankaré, tu as des joueurs capables de faire une première passe propre. Et après, devant, on sait depuis le début de la saison qui a la qualité technique pour redoubler les passes, jouer court, jouer long, changer de rythme, etc. Donc c'est vraiment une notion de, à défaut de pouvoir construire et de partir du gardien et de construire de zéro, je me suis bâti une équipe qui est capable de récupérer le ballon plus haut, et du coup, en récupérant le ballon plus haut, ce sont plus mes défenseurs qui font la première passe vers l'avant, qui généralement se transforme en dégagement qui finit en touche, du coup la balle est à nouveau perdue, mais ce sont mes milieux qui touchent la balle puisque ce sont eux qui la récupèrent, et du coup la première touche vers l'avant elle est meilleure, et en plus j'ai des joueurs qui sont devant capables de faire la différence en transition avec leur vitesse. Donc voilà un petit peu le changement et qui explique à mon avis pourquoi Bordeaux a fait un bon début d'année 2007, vu que à part la défaite contre le PSG, bah, l'équipe n'a pas perdu tout simplement. Elle a fait quelques matchs nuls certes, mais ça change déjà de la phase aller. Et en plus, tout à l'heure je parlais de Nice qui n'arrivait plus forcément à gagner ses mauvais matchs. Bordeaux est un cran en dessous, mais Bordeaux ne perd plus ses mauvais matchs. Il y en a eu un très mauvais contre Rennes et qu'ils n'ont pas perdu. Ils auraient même pu le gagner à la fin avec une ou deux occasions de plus pour Menez. Donc voilà, assez optimiste pour cette fin de saison. Je ne sais pas si ça va accrocher le top 5 parce que par rapport à Saint-Etienne et Marseille, Bordeaux a quand même un calendrier difficile. Parce que Bordeaux, par rapport à ces deux équipes, doit encore jouer Lyon, Nice, Paris et Monaco d'ici la fin de saison. Sachant que Paris, bah, ça arrive vite. Mais voilà, il y a sur 14 matchs, il y en a déjà 4 très compliqués à jouer. Parce qu'en plus, Bordeaux a eu du mal sur la première phase face au gros, même si c'est allé gagner à Lyon. Voilà, il y a un certain potentiel. Après, pour parler de Marseille vite fait, j'ai un peu l'impression en fait que les deux équipes ont un petit peu les mêmes qualités, les mêmes défauts. C'est-à-dire que tu as deux équipes qui sont très tournées vers l'avant, qui veulent défendre en avançant, qui ont le même système de jeu d'ailleurs cette saison, mais qui peuvent aussi avoir de gros soucis dès que leur pressing à la perte est éliminé, parce qu'il y a souvent de grandes distances entre les lignes. Et quand Marseille peut s'appuyer sur un vainqueur pour couvrir, et il a fait le boulot plutôt bien contre Lyon, à voir s'il continue sur la durée, Bordeaux se retrouve avec Toulalan qui est plus forcément capable de couvrir autant d'espace. Donc voilà, à suivre. C'est un peu deux équipes que je mettrai en parallèle, même si Marseille a plus de moyens et plus de talent. Mais sur le plan du jeu et du projet de jeu collectif, ça peut-être se ressembler d'ici la fin de la saison, même si, comme je l'ai dit, Marseille a une qualité de joueur supérieure.
Julien, un petit mot pour finir sur Saint-Etienne. Saint-Etienne, donc Christophe Galtier a dit l'autre jour que les matchs face à Manchester étaient les deux moins importants du mois. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, sur l'importance donnée à la Ligue Europa par les clubs français. Alors après, c'est peut-être de la com', n'empêche que c'est quand même peut-être un petit peu maladroit. Cette équipe de Saint-Etienne, est-ce que tu la vois devant Bordeaux, derrière Bordeaux? Est-ce que contre Lyon, toi qui as forcément suivi le match, elle t'a plu? Comment est-ce que tu juges Saint-Etienne?
Bon, contre Lyon, ils ont été bons, mais pas forcément le genre de performance que tu peux reproduire contre n'importe quelle équipe. Ils sont aussi beaucoup servis des défauts lyonnais, et c'est bien joué de leur part, mais bon, on est toujours un peu à dire la même chose avec Saint-Etienne. C'est qu'est-ce qu'ils ont construit cette année, vers quoi ils vont aller l'année prochaine, au niveau de l'effectif. C'est une équipe qui dépend quand même beaucoup d'un joueur comme Amouma. C'est un petit peu leur rayon de lumière. C'est un peu dommage de l'entendre dire ça, oui, parce que au final, ce qu'ils font actuellement en championnat, c'est se battre pour attraper à nouveau l'Europa League l'année prochaine. Donc, ça pourrait plutôt être leurs deux matchs les plus passionnants, en tout cas, parce que je pense que sinon, ils vont être toujours dans la même logique. Une équipe très compliquée à jouer, de mieux en mieux au pressing, et puis qui derrière, quand elle a récupéré le ballon, souvent dans les combinaisons offensives, il y a toujours un joueur qui, parce qu'il a pas forcément le niveau technique suffisant, va faire un peu foirer l'occasion. Donc ça, c'est à travailler, mais bon, est-ce qu'ils ont de quoi faire dans l'effectif pour progresser dans ce domaine-là?
Alors, avant de passer au PSG, on va dire un petit mot du bas de tableau. Bon, on va pas non plus peut-être tout développer parce que on a déjà pas mal parlé, mais ce qui reste quand même, c'est que de la 20e à la 11e place, il n'y a que 5 points d'écart. Alors même si ça arrive assez régulièrement que le championnat soit quand même assez dense en bas de tableau, à ce niveau-là, c'est quand même très très rare. Et c'est difficile de dire sur le point comptable qui peut se maintenir. Je pense qu'il faut aussi faire des projections sur le potentiel de chaque équipe. Je ne sais pas, Flo, peut-être, pour qui est-ce que tu as peur? Et au contraire, quelles équipes pourraient a priori s'en sortir, même si pour l'instant, au niveau comptable, c'est pas extraordinaire.
Moi, alors, les équipes qui, pour lesquelles j'ai peur, déjà, c'est Bastia, qui est quand même descendu sans faire de bruit à la 19e place dernièrement. Et c'est surtout une équipe qui est très mauvaise, je crois, à domicile. Alors qu'il y a quelques temps, c'était Furiani, c'était impossible d'y gagner. Et ils faisaient justement une bonne partie de leurs points sur chaque saison sur leur efficacité à domicile. Là, c'est plus forcément le cas cette année. Je crois qu'ils sont dans les pires équipes du championnat à domicile. Donc,
19e, ouais.
Ouais, Bastia, je les sens pas très bien à cause de ça notamment. Et puis après, parce que sur le plan de l'équipe et du talent, même s'il y a des jeunes joueurs sympas devant, avec Saint-Maximin notamment, enfin un jeune joueur sympa devant, voilà, ça me paraît très limité. Après, quand je les ai vus, ben, malheureusement, c'est peut-être la performance face à Bordeaux qui me fait dire ça, mais je suis assez perplexe aussi sur leur capacité à se maintenir. Montpellier, je pense qu'ils ont fait la bonne opération, enfin, ils ont fait le bon choix, non pas en virant Hans, mais parce qu'il n'allait pas non plus les amener tout en bas, mais après les déclats de Nicolin sur son entraîneur, c'était pas possible de continuer comme ça. Enfin, tu décrédibilises totalement ton entraîneur et du coup, après, tu es obligé d'en changer. En gros, tu pouvais plus saquer ton entraîneur et tu as décidé d'en changer et de faire venir quelqu'un de la maison, en l'occurrence avec Gassé. Je pense que le bon match qu'ils ont fait contre Monaco va un petit peu les remotiver. C'est une équipe qui a les 2-3 talents nécessaires pour se maintenir. En plus, ils ont peut-être trouvé un attaquant intéressant pour les années à venir avec Mounier. Donc voilà, après Nantes, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Après, dans les équipes, tu vois, dans l'équipe plaisante, mais qui finalement se retrouve en grand danger, un petit peu façon équipe de Jean-Marc Furlan, c'est Dijon. Parce que bah, c'est l'équipe qui perd beaucoup de points en fin de match. C'est l'équipe qui, en plus, ce soir, perd contre un concurrent direct. Le FC Metz. Voilà, attention à Dijon, même si j'aimerais pas les voir descendre. Et Angers, dans le sens où l'équipe qui a clairement tout contre elle cette année. Autant sur la phase aller de l'année dernière, ils en avaient pas mal, je pense, de réussite. Autant cette année, je pense que défensivement, ça se passe toujours aussi bien collectivement. Mais l'année dernière, ils marquaient beaucoup sur coups de pied arrêtés. Cette année, ils en encaissent beaucoup de coups de pied arrêtés. Et puis, ils n'en marquent plus autant. Et dans le jeu, je pense que la perte de Ketke Ofomfon pèse beaucoup. Tant pour la qualité des coups de pied arrêtés à tirer, évidemment, que dans le jeu, tout simplement. C'est un joueur qui faisait beaucoup d'efforts défensifs à la pointe de l'attaque. Et voilà, donc attention à Angers, même si je pense que collectivement, c'est loin d'être la pire équipe, évidemment, des 10 dernières du classement, de la deuxième partie de tableau, mais c'est vrai que tous les petits détails sont un petit peu contre eux cette saison, à mon avis.
Julien, toi, avec peut-être en faisant parler les chiffres et en ayant l'expérience du modèle des années précédentes, est-ce que par exemple une équipe comme Nantes, qui n'a marqué que 15 buts mais qui en a pris 31, a plus de chances de se maintenir qu'une équipe comme Dijon qui en a marqué deux fois plus puisqu'on a marqué 32 mais qui en a pris 37? Et enfin voilà, quel type d'équipe ont pour toi le profil pour se maintenir par rapport à ce qui se fait les années précédentes?
Ouais, sur la différence entre Nantes et Dijon, c'est vrai que généralement c'est plutôt les équipes qui défendent mieux qui s'en sortent mieux, parce qu'en fait elles sont plus régulières dans les performances. Bah, ça suffit pas pour aller chercher plus haut, mais ça, gratter des points régulièrement, déjà, ça permet de se donner un peu d'air et de pas partir dans des spirales négatives. Souvent, dès qu'une équipe se met à perdre et enchaîner des défaites, même dans les matchs où les performances sont pas forcément si mauvaises, elle se retrouve toujours au final avec 0 points au compteur. Après, voilà, sur le nombre d'équipes actuellement, oui, par rapport à l'année dernière, il y a une grosse différence. Je sais que moi j'ai sorti des simulations il n'y a pas longtemps, donc en utilisant les expected goals et en simulant le reste du championnat, j'ai 10 équipes à plus de 5% de chance d'être dans les 3 derniers, donc comparé à l'année dernière où il devait y avoir 3-4 à ce moment de la saison, c'est énorme. Bon, je suis assez d'accord sur Bastia, ça fait quelques années qu'ils sont plus ou moins proches de descendre, mais là, ça va peut-être être leur année. Pourtant, au niveau du recrutement, trouvais qu'ils n'avaient pas forcément fait leur pire recrutement. Quelqu'un comme Saint-Maximin, typiquement le genre de joueur qui, dans une équipe de bas de tableau, peut faire suffisamment pour faire gagner quelques matchs. Mais comme disait Florent, ils sont avant-derniers à domicile cette saison, donc loin de ce qui leur permettait justement les saisons précédentes de se maintenir. Donc Bastia, oui, Dijon, parce qu'au niveau de la défense, même s'ils sont, ils peuvent être sympas à voir par moment, quand on a une défense comme ça qui concède autant d'occasions, il y a que Metz qui fait pire. C'est compliqué quand même de se maintenir. Et au niveau des points, ils n'ont pas fait suffisamment d'avance comme ont fait Nancy et Metz, qui ont gagné des fois des matchs en n'étant pas forcément dominateur, en ayant fait un plus mauvais match que son adversaire, mais qui a réussi à engranger des points qui leur permettent d'avoir un petit match là de sécurité, bon, qui n'est pas énorme parce que tout le monde est serré. Mais Dijon, ils n'ont pas eu cette chance-là, même si, par exemple, ils avaient eu pleinement de la réussite contre Lyon. Puis derrière... J'ai au même programme niveau Lorient, Metz, et puis un peu plus tranquille, Nancy, Nantes, Angers. Angers qui, effectivement, est peut-être l'équipe la moins réussite, qui a des performances qui la placerait plutôt en première partie de tableau. Un peu comme Montpellier, qui au final n'est pas bien payé, mais voilà. Quand on ne récupère pas les points qu'on devrait, ça peut vite changer. Et eux, par exemple, c'est typiquement l'équipe qui n'a pas forcément le joueur un petit peu pour mettre de la folie et permettre de transformer des matchs un peu tristes en victoire.
Bon, messieurs, on a à peu près fait le tour de la Ligue 1, hormis Paris, qu'on a volontairement sauté tout à l'heure, et pour cause, puisqu'on a Mathieu Martinelli qui nous rejoint, spécialiste de Paris, intervenant notamment dans le podcast Culture PSG. Salut Mathieu.
Salut à tous.
Alors Mathieu, on va arriver sur le gros match de la saison parisienne, peut-être le premier vrai gros test sur les capacités d'Emery et sur l'intérêt ou pas de l'avoir fait venir avec ce match contre Barcelone. Déjà, le PSG actuel, comment est-ce que tu le juges, même sur toute la saison, puisqu'on t'a pas encore eu dans le podcast. Est-ce que tu es globalement satisfait de cette saison sous Emery, ou alors est-ce que tu as des réserves?
Bah écoute, c'est une saison un peu chaotique comme on l'imaginait. Au début, parce que quand on a vu les départs d'Ibra, de David Luiz non remplacé, et puis un mercato un peu en demi-teinte, même qui s'est révélé assez décevant avec les performances des joueurs qui ont été recrutés, bon, on savait que ça allait pas être très très facile à aborder comme saison, surtout avec le changement d'encadrement technique. Bon, au final, c'est une saison compliquée, surtout que Monaco et Nice sont sur des très très bonnes séries. Je pense que Monaco fait un parcours de très bonne équipe, équivalent à celui du PSG de Laurent Blanc la première saison, donc vraiment sur un très gros rythme. Nice aussi est sur un rythme et sur une moyenne de points qui devrait les envoyer à plus de 80 points si on projette sur l'ensemble de la saison. Donc la concurrence est assez forte et ça tombe assez mal vu que c'est l'année où un peu de transition du projet parisien. Après, si tu resserres un peu sur les dernières semaines, je pense que Paris est dans le meilleur moment de sa saison. Si tu prends depuis la défaite à Guingamp, on a joué 10 matchs officiels, on a gagné 9. Et match nul une fois face à Monaco, en temps additionnel. Donc, avec une certaine progression au niveau du jeu, et notamment sur le plan défensif, vraiment très peu d'occasions concédées à chaque fois. Et sur le plan du jeu aussi, il y a des choses qui se mettent un peu en place. Donc, on va dire qu'on est mieux qu'au moment où le tirage avait été effectué face au Barça le 12 décembre dernier.
Entre deux, il y a eu un mercato de janvier qui, ouais. Vu de l'extérieur, ça ressemble un peu à une correction du mercato estival. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et qu'est-ce que tu penses? Bon, Guedes, c'est peut-être un petit peu tôt, mais notamment de l'arrivée de Draxler qui directement s'est imposé dans l'équipe.
On va dire qu'à la fin de l'été 2016, on s'était dit qu'il manquait deux joueurs au PSG qui n'avaient pas été remplacés. C'était un défenseur central, un quatrième, et une doublure à Cavani. Au final, on a fait ni l'un ni l'autre, mais on s'est aperçu entre temps qu'il y avait un gros manque qualitatif au poste d'ailier gauche. On sait que Emery, depuis le début de la saison, voulait que ses ailiers jouent de façon assez intérieure, se placent entre les lignes, derrière la ligne des milieux adverses. Et dans ce rôle-là, ni Di Maria ni Lucas n'ont été vraiment satisfaisants. Pastore a été indisponible tout après un partie de saison aussi. Donc il manquait ce profil de joueur capable de jouer entre les lignes et capable de s'associer aux autres, avec une certaine dose de créativité et de qualité technique. Et de ce point de vue, l'arrivée de Draxler, c'était une opportunité un peu en or, et le club l'a très bien saisi, et on voit déjà dès ses premiers matchs tout ce qu'il peut apporter. Donc, dans ses déplacements, dans sa capacité à, à conserver le ballon, à faire jouer les autres, à aérer le jeu quand c'est nécessaire. Donc c'est déjà, on peut d'ores et déjà dire que c'est une recrue très positive.
Avant de réfléchir au scénario du match contre le Barça, déjà, est-ce que t'es satisfait de ce qu'a fait Emery sur le plan des expérimentations? Ce qu'on reprochait à Blanc, c'était un petit peu de faire toujours la même chose, et donc du coup de buter quand il arrivait face à des équipes qui étaient aussi très sûres de leur jeu, mais qui étaient plus douées. Est-ce que tu penses que Emery a assez tenté et qu'il arrive avec suffisamment d'armes dans son jeu avant ce match contre Barcelone pour pouvoir tenter plusieurs styles de jeu pour déstabiliser une équipe qui, a priori, sur le papier, est un peu meilleure?
Il a beaucoup cherché, beaucoup tenté depuis le début de la saison. Certains diront qu'il a beaucoup tâtonné, c'est vrai. En début de saison, on jouait avec des ailiers, des latéraux vraiment très avancés et des milieux offensifs qui étaient vraiment resserrés dans l'axe. Là, depuis quelques semaines, ça s'est un peu évolué. C'est plus les milieux intérieurs, les milieux relayeurs qui jouent entre les lignes, et les ailiers qui sont revenus à une position un peu plus classique, au moins au départ d'action sur les côtés. Il y a eu pas mal de changements de système. 4-2-3-1 a été vu plusieurs fois. Et au niveau du style de jeu, je pense que ce qu'on a vu face à des grosses équipes, ou du moins des équipes qui avaient l'ambition de ressortir court et de proposer un jeu de possession, que ce soit Lyon au Trophée des Champions, Nice ou Arsenal, on a vu un pari assez différent. Donc effectivement, c'était des compositions qui étaient un peu critiquées, avec Matuidi à gauche, avec Krikoviak devant la défense, et trois vrais milieux défensifs, hein, qui restaient vraiment dans leur position. Mais pour le coup, ça avait plutôt bien marché, et on avait vu un pari qui avait un style de jeu assez identifié, qui venait chercher très haut à la relance, très agressif, qui venait aller presser et qui essayait d'empêcher de relancer son adversaire de relancer. Et de ce point de vue, ça avait plutôt bien marché. Après, ce qui a vraiment manqué cette saison, et ce qui manque toujours, c'est la capacité à être un peu à faire sauter les verrous qu'on retrouve en face, donc à créer du jeu face à des équipes un peu repliées. Bon, c'est vrai que la perte d'Ibrahimovic et son remplacement par un profil un peu différent comme celui de Cavani fait jouer aussi là-dedans, le fait que Verratti manquait beaucoup de matchs aussi, Pastore aussi, donc c'est un peu la difficulté qu'a Paris. C'est d'un côté, il est sur les gros matchs, il a les armes de mettre en place un style de jeu qu'il ne peut pas du tout mettre en place face à des équipes qui refusent le jeu et qui ne tentent pas vraiment de relancer, comme c'est le cas dans la majorité des matchs de Ligue 1 qu'il joue.
Florent, deux questions qui suggèrent deux approches différentes pour le match contre Barcelone. La première de Lucho González qui dit: est-ce qu'il faut jouer très haut et presser les centraux comme les centraux et milieux défensifs comme l'a fait Bilbao, donc un truc assez offensif? Et une autre question de Mahmoud Scholes qui dit: le PSG doit-il être plus pragmatique comme le Barça est plus à l'aise en contre, ou faire un peu comme le Real l'avait fait face au Bayern? Donc en gros, est-ce qu'il faut aller chercher Barcelone et provoquer l'erreur, ou est-ce qu'il faut attendre et forcer cette équipe à se livrer alors qu'elle se livre un petit peu moins naturellement qu'elle faisait par exemple avec Guardiola, où elle tenait plus la balle?
Bah, je pense qu'il faut faire les deux. la solution du match, de toute façon, toutes les équipes qui ont réussi des perfs contre le Barça dernièrement, ce sont des équipes qui à la fois réussissent à bloquer sa sortie de balle, ou en tout cas lui poser des problèmes sur la sortie de balle, malgré le fait que t'es la MSN devant. Aujourd'hui, il y a quand même des équipes comme Bilbao, comme Villarreal, même si Villarreal c'était surtout la défense basse, mais comme l'Atlético, comme Manchester City, qui ont posé d'énormes problèmes au Barça, d'abord parce que leur pressing haut et sur la relance de Ter Stegen était efficace et leur permettait justement de réduire le temps passé à défendre, tout simplement. Après, il y a un autre côté, c'est que moi j'ai trouvé que Paris, dans les matchs où ils ont fait face à un adversaire capable de les mettre en difficulté, Paris est une équipe, je pense que Julien confirmera, qui finalement concède très peu d'occasions, très peu de situations dangereuses. Et je repense notamment au match contre Arsenal, où Paris fait deux matchs nuls, mais deux matchs nuls qui sont miraculeux pour Arsenal. Paris avait aussi su bien défendre bas, autour de sa surface, et surtout bien quadriller sa surface. J'en avais parlé tout à l'heure quand je parlais de Monaco-PSG, où Paris avait quasiment rien concédé, notamment en étant parfait dans leur surface de réparation et pour envoyer les nombreux centres monégasques. Alors le Barça centre pas, mais l'objectif reste le même, c'est d'empêcher cet adversaire de rentrer dans la zone dangereuse qui est dans l'axe de la surface de réparation, la danger zone. Et je pense que de toute façon, Paris aura ce même but. Et justement, moi, ça m'intéresserait d'avoir l'avis de Mathieu là-dessus.
Est-ce que Krikoviak, qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison, est-ce que, à ton avis, on va le voir face mardi face au Barça? C'est une vraie question que je me pose en pensant à ce match, en fait.
Bah, c'est la question que un peu tout le monde se pose. Krikoviak n'a pas joué un match officiel avec le PSG depuis le match face à Lorient, il me semble, donc mi-décembre.
Ouais, ça remonte.
Ouais. Il a joué quelques minutes à Tunis pour un match amical. Et puis au-delà de ça, Emery a semblé tenter deux fois au mois de janvier. Il me semble que c'est face une fois en coupe et une fois deux fois en coupe même. Il a mis en place un milieu de terrain avec Rabiot numéro 6 et Verratti et Matuidi en relayeur. Donc on peut penser que c'était plutôt en prévision de ce match-là. Et c'est vrai que c'est difficile de voir Krikoviak qui a joué avec la CFA ce week-end.
Ressortir.
Remarque, il était bien ressorti pour le match face à Arsenal de retour, avec une efficacité un peu mitigée, vu que bon, il avait eu un rôle important pour faire sortir Özil du match, mais il avait concédé aussi un penalty et il avait semblé vraiment un peu court parfois sur le plan technique, donc ça peut sembler un peu risqué de le voir ressortir.
Et par exemple, là, on a une question de Kevin Vertueux qui nous demande est-ce que le PSG n'a pas intérêt à mettre Blaise sur le banc et le faire entrer en deuxième période. Et en gros, la question qu'on peut, si on peut élargir, c'est est-ce que Emery va être tenté de refaire sa spéciale Arsenal avec Blaise Matuidi qui va presser et donc qui joue dans un rôle d'ailier, mais ailier pas du tout traditionnel. Ou est-ce que cette stratégie-là, ayant bien marché contre Arsenal, va être conduite? Ou alors maintenant qu'il a d'autres profils, notamment sur les ailes, il va plus mettre des Draxler et des joueurs peut-être plus offensifs pour faire la différence. Mathieu, est-ce que tu vois quelque chose de plus proactif ou de plus réactif qui vise d'abord à neutraliser l'adversaire?
Alors déjà, Matuidi sera titulaire sûr et certain face au Barça. Il sera pas sur le banc, comme l'a répété Emery. C'est le joueur qu'il considère le plus apte au pressing dans son effectif. Donc c'est très difficile de l'imaginer sur le banc face au Barça. Après, sur la question de la position, on pourrait l'imaginer, pourquoi pas l'imaginer ailier. Il y a deux soucis. D'une, c'est que Thiago Motta déjà va être absent au match aller, donc ça retire un choix au milieu de terrain. Par exemple, il pourrait pas aligner un milieu Motta, Verratti, Rabiot comme il a parfois fait. Et de deux, c'est vrai que Draxler s'est vraiment imposé sur ce côté gauche et puis donne certaines solutions, notamment à la relance. On l'a vu notamment face à Monaco 2-3 fois en première mi-temps, où quand Paris est pressé, le ballon va à Kurzawa qui donne tout de suite la balle à Draxler qui est sur le côté gauche. Et Draxler, dans ces cas-là, il a vraiment une excellente conservation de balle, une excellente protection de balle. Il sait se retourner et il peut revenir après dans l'axe pour faire jouer les autres et faire respirer un peu son équipe. Donc je pense pas que ce soit une arme dont se prive Emery, parce qu'il peut réussir à sortir et à relancer avec Draxler dans cette position-là. Et il y a un autre élément à prendre en compte, c'est la présence de Sergi Roberto au côté Barça, qui n'est pas forcément un arrière-droit de formation. Il semble qu'il a eu quelques problèmes défensifs sur certains matchs ces dernières semaines. L'avoir en 1 contre 1 face à Draxler, je ne pense pas non plus que ce soit quelque chose dont se prive Emery. Donc plutôt Matuidi au milieu de terrain, j'imagine.
Julien, Mathieu parlait de Sergi Roberto qui a été expulsé hier dans un match très difficile pour Barcelone contre l'Atlético. Barcelone qui s'en sort vraiment bien de se qualifier pour la finale de coupe. Sur ce que tu as vu de cette équipe de Barcelone, est-ce que tu penses qu'elle est prenable? Est-ce que ce qu'a fait l'Atlético, c'est reproductible par le PSG? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Bon, déjà, on verra si c'est vraiment Sergi Roberto, peut-être avec Vidal qui a l'air de revenir un peu en forme dernièrement, mais... Sur le match d'hier contre l'Atlético Madrid, bon, là, ce qu'ils auront de différent avec le match contre Paris, déjà, c'est que je pense qu'ils n'auront pas un milieu Rakitic, Gomez, Suarez, parce que ça ne marche pas du tout. On va dire que le retour de Busquets et de Iniesta, qui sont tous les deux rentrés en cours de match, si ils sont vraiment à l'état de forme maximal pour eux, ça va faire une grosse, grosse différence, parce que depuis la perte, déjà Busquets, il y a Mascherano qui pouvait dépanner au milieu de terrain en alignant Umtiti et Piqué en défense centrale, mais on va dire que dès qu'ils ont eu ni l'un ni l'autre, c'était très compliqué. Hier justement, l'Atlético, je pense, a montré un petit peu ce qu'il fallait faire. Ils ont été très efficaces au pressing et on a vu que voilà, ces trois joueurs-là au milieu de terrain étaient incapables de faire face à la pression. Le système collectif de Barcelone a perdu avec et en se basant plus sur des individualités. Et clairement, dès qu'il y a un pressing qui est bien fait, on sentait qu'ils n'avaient pas les solutions collectives pour ressortir. Et ils avaient l'Atlético a ensuite complètement coupé la relation avec les trois de devant, donc qui n'a pas besoin de beaucoup de ballons pour marquer. Et bon, Suarez a réussi à marquer finalement complètement à l'inverse du cours du jeu, mais y a possibilité quand même de couper la relation. Après, voilà, on verra. Je pense que ça dépendra quand même beaucoup de l'état de forme de Busquets et Iniesta. Parce que Mascherano donc sera absent, mais voilà, on va voir si ils seront revenus à 100%. Mais quoi qu'il arrive, je pense que la solution pour Paris, c'est de mettre une grosse pression sur ces joueurs-là au milieu.
Mathieu, ce que tu as vu de Barcelone cette saison, je ne sais pas si tu les vois régulièrement ou pas, mais est-ce que tu penses que l'affrontement, si on parle de match-up comme un NBA, peut tourner à l'avantage de Paris? Est-ce que Paris a les caractéristiques pour embêter cette équipe de Barcelone?
Déjà, comme l'a dit, comme on vient de le dire, c'est la présence de Busquets et d'Iniesta va quand même changer beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment difficile de se baser sur les performances récentes du Barça pour tirer des conclusions. Après, si on prend l'affrontement en général, il y a quand même un point qui est compliqué du côté du PSG et c'est quand même vérifié ces dernières semaines quand les adversaires ont cette attitude au pressing. C'est vraiment la difficulté que Paris a à ressortir et à relancer. Et face au Barça, l'absence de Mota risque d'être un gros frein et risque de peser assez lourd. En se mettant dans l'hypothèse où c'est Rabiot qui remplace, Rabiot a pas vraiment il a évidemment des grandes qualités techniques et c'est indéniable, mais il n'a pas vraiment la discipline et le savoir-faire au poste pour ouais, tenir ce poste et vraiment organiser la relance du PSG. Donc on risque de voir pas mal Rabiot et Verratti se marcher un peu dessus et peut-être un peu être. On risque d'avoir un peu de confusion peut-être dans la relance du PSG. Et on sait que face au Barça, qui d'ordinaire imprime quand même un certain pressing, l'une des clés du match, c'est vraiment d'être capable de relancer et de faire la passe en plus qui fait aérer le jeu et qui permet de garder le ballon. Parce que si tu restes à 30% de possession et complètement acculé sur tes cages, tu sais que tu vas finir par prendre un but face à des joueurs comme ça. Donc, si on élargit un peu, si on regarde les performances, les meilleures performances du PSG face au Barça ces dernières années, donc que ce soit le match nul un partout au Camp Nou sous Ancelotti et la victoire 3-2 en poule sous Blanc, il y a un gros dénominateur commun sur ces matchs-là, c'est une performance énorme du trio Mota, Verratti, Pastore, qui avait été capable de rivaliser techniquement avec les joueurs en face, et de garder la balle, de faire respirer leur équipe et de créer du jeu. Et là, a priori, sur ces trois joueurs, il va quand même t'en manquer deux, plus Verratti qui sera a priori remis, mais pas forcément à 100%, donc ça te limite pas mal d'un point de vue technique dans ta capacité à rivaliser et à garder le ballon et à pouvoir faire mal au Barça.
Florent, un avis?
Ouais, non, c'est vrai que je rejoins aussi Mathieu sur la difficulté que va entraîner, enfin les difficultés que va entraîner l'absence de Mota, parce que comme il le disait, Rabiot dans ces postes-là ou pour permettre la remontée de balle, autant c'est un joueur qui à mon sens dans sa tête joue trop bas et devrait être amené beaucoup plus à être Enfin, devrait être beaucoup plus tourné vers l'avant parce qu'il a les jambes pour faire ses allers-retours, pour faire ses longues chevauchées, ses incursions et vraiment jouer comme un vrai relayeur, quoi. Il joue comme Mota Verratti sous Laurent Blanc alors qu'il a les qualités pour faire bien plus et aller même jusqu'à entre les lignes adverses, voire jusque dans la surface. Et c'est vrai qu'en 6 en plus, il lui manque cette. Je sais pas, c'est cette discipline, cette capacité qu'a Mota et que n'a aucun autre Parisien, à part peut-être Verratti s'il joue en 6, mais on l'a pas vu pour l'instant. C'est cette capacité à vraiment voir et savoir avant de recevoir la balle où est-ce qu'il va la mettre, quoi. Et ça, Rabiot ne l'a pas aujourd'hui. Et du coup, c'est sûr que face à une équipe qui presse, eh ben ça te met en difficulté. Même le pressing de Dijon a mis Paris en difficulté dernièrement. Donc c'est vrai que quand tu penses au pressing du Barça qui est capable de le faire, même s'il le fait plus de manière systématique comme sous Guardiola, c'est sûr que ça peut inquiéter. Après, c'est pour ça que le fait d'avoir un Paris, ça va être leur prestation défensive va être beaucoup plus importante que leur prestation offensive, que leur capacité à ressortir les ballons, etc. C'est-à-dire qu'à mon sens, il va falloir qu'il réussisse à subir le moins possible, donc à récupérer le ballon haut quand le Barça repart de son gardien. Et il va falloir aussi qu'il réussisse à tenir très bas et à défendre leur surface aussi bien que Villarreal l'avait fait lors du match de Liga il n'y a pas longtemps, où le Barça a laissé filer 2 points. C'est ça sur ce match aller en tout cas. C'est vrai que Paris arrive une nouvelle fois dans des dispositions assez peu favorables sur le plan de l'effectif, etc. Après, je pense que si on prend l'ensemble de la saison et si on prend le Barça depuis le début de la saison et les performances qu'il a pu faire, je pense que le meilleur pari qu'on a vu cette saison peut gêner ce Barça-là. Après, est-ce qu'on verra le meilleur pari ? Ça va être le boulot d'Emery, de faire en sorte que malgré les blessures, l'équipe arrive sur le terrain avec, en étant compétitive, tout simplement. Pour ça, je lui fais confiance parce que dernièrement et dans les saisons précédentes, il a quand même montré une certaine science pour préparer ses équipes pour les grands rendez-vous. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que les Parisiens l'ont pris au départ. Après, il y a le niveau du Barça qui va être une question aussi. C'est-à-dire que si le Barça, par rapport aux performances qu'il a fait ces derniers mois, hausse son niveau de jeu aussi pour ce rendez-vous-là, la marche, elle va sans doute être encore un peu plus haute pour les Parisiens et un peu plus difficile à franchir. Après, est-ce que les Barcelonais seront prêts et à fond déjà pour ce match aller, sachant qu'ils ont un match retour à domicile et qui a lieu dans 3 semaines du coup, c'est ça ? C'est 3 ou 4 semaines,
trois semaines après.
Voilà, en 3 semaines, si le Barça fait un match moyen plus au Parc et sans gagner, ils se donnent 3 semaines de délai pour faire leur premier gros match au Camp Nou. Ça, c'est un scénario aussi possible. Mais c'est vrai que Paris est loin d'être dans les meilleures dispositions aujourd'hui. Après, le retour de Verratti va déjà peut-être un peu tempérer les difficultés qu'on avait vues dernièrement pour sortir le ballon. Parce que c'est Verratti et en plus s'il veut briller et continuer à montrer ce qu'il avait montré dans le courant du mois de janvier, c'est-à-dire qu'il commençait vraiment à changer de dimension et à prendre vraiment les clés de cette équipe et à en devenir le patron, s'il veut briller sur un match cette saison, c'est celui-là quoi.
Ça marche. Pour finir, là j'ai une question de Monsieur Khalifa qui nous dit est-ce que le PSG doit s'inspirer du match Italie-Espagne ? Donc, comment est-ce que vous imaginez ce match ? Alors, si on veut faire un pronostic, alors soit sur le score, soit au moins sur la physionomie, est-ce que du coup ça peut effectivement être Italie-Espagne avec le Barça qui tient la balle et Paris qui joue du coup plutôt en contre avec une science tactique, ou alors est-ce que ça va plus être un 50-50 si pronostic soit sur le score, soit sur la physionomie du match. Mathieu, comment est-ce que tu imagines ça?
Après, sur Italie-Espagne, l'Italie avait quand même eu des séquences de possession,
oui, c'est vrai aussi,
assez longues et était vraiment, pour le coup, avait vraiment très bien relancé. Bon, face à une Espagne qui n'avait pas forcément de plan pour presser, mais c'est une autre histoire. Après, sur la physionomie, j'imagine très bien Paris venir chercher haut. Et une fois le pressing effacé, si jamais le pressing est effacé, venir se replier très très bas dans les 30-35 derniers mètres. D'ailleurs, ça, on l'a vu sur des matchs de Ligue 1, que ce soit face à Rennes ou Nantes. Par exemple, les deuxièmes périodes face à Rennes et Nantes, ouais, les possessions sont très équilibrées et Paris se replie très bas. Donc voilà, ça risque d'être très très compliqué. On sait que le rapport de force est largement favorable au Barça. Après, il y a quand même quelques bonnes nouvelles récentes, notamment par rapport à décembre. C'est le retour en forme de la charnière centrale, Thiago Silva, Marquinhos. Ils enchaînent les bonnes performances en ce moment. Et l'efficacité sur les coups de pied arrêtés, c'est que c'est quelque chose d'important, notamment face au Barça, où t'as pas forcément beaucoup d'occasions dans le match, mais il faut les exploiter à fond. Sur les dernières semaines, sur les derniers mois de compétition, Paris marque beaucoup et est très dangereux sur les coups de pied arrêtés, notamment par l'intermédiaire de Thiago Silva. Donc ça peut être un aspect sur lequel appuyer face au Barça.
Julien?
Oui, je pense que ça sera peut-être plus équilibré que juste le Barça qui tient le ballon. Je pense pas que Emery va vouloir être si attentif que ça. Et comme le disait Florent, je pense que est-ce que le Barça va pas déjà aussi réfléchir plus que Paris au match retour en se disant que ils seront peut-être plus prêts, ils auront le temps de récupérer un milieu de terrain. Leur milieu de terrain classique qui leur avait permis justement d'aller chercher une Coupe des Champions il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'ils vont être dans cette logique-là plutôt que déjà vouloir gagner ce premier match ? On verra, mais ça ne m'étonnerait pas que ça soit plus équilibré au niveau possession que ce qu'on pourrait penser.
Florent, le mot de la fin pour toi.
Moi, je pense que ça va alterner un petit peu comme Mathieu, possession, enfin, séquence de pressing sur les relances de Ter Stegen, et après, on se regroupe très bas. Du coup, ça va faire beaucoup de boulot des attaquants sur le plan du repli, et ça va peut-être être un vrai test pour un Julian Draxler qui est pas forcément, en tout cas du côté de Wolfsburg, n'était pas forcément un joueur très assidu quand il s'agissait de défendre. Alors, il a fait le boulot jusqu'ici. Mais là, ça va être un vrai test pour lui quant à sa rigueur et sa discipline et son intégration au projet. Après les autres, je me fais pas trop de soucis. Ils ont l'habitude, et si c'est Lucas par exemple qui joue à droite ou Di Maria, ce sont des joueurs qui ont l'habitude quand même de faire ce genre d'effort. Donc je pense que ça va alterner vraiment des phases très hautes, des phases très basses. Mais je pense aussi que quand Paris aura la balle, un petit peu comme l'exemple de l'Italie là, que vous avez évoqué juste avant, Paris essaiera de construire quelque chose, donc essaiera de construire tout court, en tout cas de ressortir court au début, et puis si ça se passe mal, comme ça peut arriver vu les dernières semaines, bah, si ça se passe mal, ça dégagera plus long et plus direct. Mais je pense que ce sera ça, c'est-à-dire une équipe, c'est vrai un peu comme l'Italie ou les équipes de Conte. C'est-à-dire, quand l'adversaire repart court, ben on va le gêner, on va essayer d'empêcher sa progression. Parce que si on gagne la balle, on peut avoir des ballons de contre. À l'inverse, une fois que l'adversaire a réussi à atteindre à peu près le rond central, là, on se replie tous et on repasse tous derrière le ballon et on défend à 10, plus le gardien. Mais par contre, quand on a la balle, on essaie de repartir court et de construire de derrière. Je pense que c'est ça que va faire le PSG. Est-ce que ça suffira? J'en suis loin d'être sûr, mais en tout cas ça rend le match, enfin ça me rend le match très intéressant, et c'est vrai que ça fait longtemps que un PSG-Barça, je pense, n'avait pas été aussi, je vais pas dire ouvert parce que le Barça est quand même largement favori, mais je pense que le PSG de cette saison, je crois plus en fait en un résultat. C'est pas parce que Blanc, Emery, tout ça, mais je crois beaucoup plus en un résultat du PSG cette saison que du PSG les saisons dernières.
Ça marche. Bah, l'avantage de vous demander vos pronostics, c'est qu'après, dans une semaine, on pourra repasser les bandes et voir à quel point vous avez été bon ou pas. En tout cas, merci messieurs pour vos analyses fines et aiguisées. Je vais vous faire un au revoir général. Et à tous ceux qui nous écoutent, déjà, n'hésitez pas à nous soutenir. On va pas vous le répéter à chaque fois, mais de mettre des étoiles sur iTunes, etc. Ça nous permet d'augmenter les classements et donc d'exploser nos scores d'écoute. Et sinon, on se donne rendez-vous, je pense, a priori d'ici une semaine, à mon avis, pour débriefer les 4 premiers matchs de Ligue des Champions. Merci à tous et à bientôt. Salut.
Salut.
Tiens, au revoir.